Ce matin, j'aimerais prendre on va étudier un personnage au travers d'un livre, de son livre, de son livre qu'il a écrit, enfin qu'il a écrit, qu'on a écrit sur lui. On a eu une série de messages à l'église. Alors, entre l'église de Pontcharra où je suis et l'église de Brignoux qui se trouve à peu près à 40 minutes en voiture, on essaye de se remettre ensemble parce qu'on n'a pas de pasteur et on s'entraide avec des prédications et autres activités, groupes de jeunes ou autres. Et donc, on a décidé une série de cultes sur ces deux églises sur les histoires de l'école du dimanche. Voilà, on voulait revisiter les histoires de l'école du dimanche. Et donc, moi, j'ai choisi de prendre l'histoire d'un personnage bien particulier. Alors, c'est un indice. C'est un indice. Il n'est pas de saison, je l'avoue, la plage, la mer et tout. Et normalement, c'est où est Charlie? On doit chercher Charlie. Mais là, c'est mais où est Jonas? Alors, vous voyez, le lien avec ce qu'on a vécu ce matin, suis-moi. S'engager pour Dieu, s'engager pour Jésus. Alors ce matin, nous allons voir, réfléchir, voir un peu qui est ce personnage de Jonas et qu'est-ce qu'il a à nous enseigner. Il faut savoir que Jonas était un prophète du royaume du nord d'Israël. C'était le roi, Israël était séparé en deux. Il y avait Juda et Benjamin qui étaient à l'intérieur. Et puis après, il y avait les 10 autres tribus du nord. Il a vécu au moment de Jéroboam II. Dans le royaume du Nord. Et il faut savoir que Dieu a utilisé Jonas pour annoncer la délivrance du royaume du Nord. Et ça, on le trouve dans 2 Rois 14. Donc, Jonas a eu l'occasion de voir Dieu à l'œuvre pour délivrer Israël. Mais le livre de Jonas ne parle pas du tout de ça. Il va parler d'un autre pays qui s'appelle l'Assyrie. Alors l'Assyrie, à l'époque de Jonas, c'est pas le grand empire de Tiglath-Pileser II hein, qui va tout conquérir. Au contraire, c'est un empire quand même déjà un peu plus restreint. Mais à l'époque de Jonas, c'est un empire qui connaît beaucoup de difficultés et de guerres civiles. Et en même temps, enfin en même temps, oui, l'un n'empêchant pas l'autre, ou peut-être l'un provoquant l'autre, c'était une période où les gens faisaient des choses atroces. Et le texte nous dit que leur méfait était tellement grand que c'était venu jusqu'à l'Éternel. Et donc Dieu décide de juger Ninive, la capitale de l'Assyrie. Et donc il appelle Jonas au chapitre 1, verset 2. Il dit, Jonas, lève-toi et va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Je pense que vous connaissez tous l'histoire de Jonas. Jonas entend la voix de l'Éternel, il se lève et il part à l'opposé. Il part vers Tarsis, il prend des bateaux pour aller à Tarsis. Alors c'est pas Tarse, comme vous voyez là au nord de la carte, hein. Non, Tarsis, c'était certainement des îles vers l'Afrique d'où venaient toutes les richesses du roi Salomon. Et donc, Jonas essaye de partir le plus loin de là où Dieu l'appelle. Et une première question surprenante qu'on se pose ou qu'on peut se poser par rapport à Jonas, pourquoi il part? S'il voulait pas obéir à Dieu, il n'avait qu'à rester. Quel besoin de vouloir partir aussi loin? Est-ce que Jonas croit qu'il peut échapper à Dieu? Et puis, la Syrie, c'était pas une grande puissance à l'époque. Qu'est-ce que ça pouvait lui faire d'aller dire aux Assyriens, ben, vous allez être détruits. N'y a pas un grand engagement là-dedans. Alors, quand on lit Jonas, on sait que il veut pas y aller parce que Dieu peut pardonner. Et où est le problème? Il faut savoir que, à l'époque de Jonas, il y avait un autre prophète qui vivait, qui s'appelait Joël. Et Joël avait fait une prophétie. une prophétie qui disait que un peuple nombreux allait venir du nord pour ravager la Samarie, pour ravager le royaume du nord. Et Jonas comprit très bien que ce peuple, c'était les Assyriens. Regardez le mécanisme dans la tête de Jonas. Si je ne vais pas à Ninive proclamer la condamnation, ils n'auront pas l'occasion de se repentir. S'ils ne se repentent pas, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va accomplir sa parole. Il va les détruire. Et si Dieu les détruit, ils ne viendront pas nous envahir. Jonas ne veut pas que les Ninivites se repentissent parce qu'il veut pas qu'ils soient un outil dans la main de l'Éternel. Et donc Jonas décide de partir. On pourrait croire qu'il agit en égoïste ou en lâche, mais d'autres le voient plutôt en héros sacrificiel. Il se sacrifie. Il est prêt à quitter sa nation, son peuple, même le lieu où il peut adorer Dieu, pourvu que les Assyriens ne viennent pas envahir Israël. Et là, on connaît l'histoire. Ben, Dieu ne l'entend pas de cette oreille. Jonas pense faire ce qui est le plus juste pour son peuple, mais Dieu, lui, il n'est pas tout à fait d'accord. Et donc, il va envoyer un gros poisson qui va avaler, gober Jonas. Avant ça, il envoie une tempête. Et puis, ensuite, la tempête se calme. Alors, quand on parle de ce miracle d'un homme avalé par un poisson, beaucoup disent, dans la haute critique de la théologie, que c'est une allégorie. Sauf que, quand on demande à Jésus un miracle, il dit, il n'y aura pas d'autre miracle que celui de Jonas, qui fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, et il en sera de même pour le Fils de l'homme. Et donc, si Jésus se compare concrètement à Jonas, c'est que c'est bien arrivé. En cherchant, en travaillant ce texte, je m'étais rappelé d'une histoire en 1800 et quelques d'un homme qui avait été avalé par un poisson. Et oh, ma surprise, sur francebleu.fr, je donne les références pour que vous puissiez vérifier, c'est un texte du 14 juin 2021 qui dit, ce vendredi 11 juin, au large de Boston, Michael Pockard, pêcheur de homard du Massachusetts, excusez-moi pour l'expression, a été avalé brièvement par une baleine à bosse, ayant été rejeté dans l'océan vivant, capable de raconter son aventure. En 2021, on a maintenant la preuve qu'un homme peut être avalé par un gros poisson. Certainement, ça a été le cas de Jonas, et ça aurait pu être le cas d'être rejeté quelque temps après. Sauf qu'on a une indication sur notre bonhomme. Combien de temps il est resté dans le ventre du poisson? 3 jours et 3 nuits. Il est resté aussi longtemps. Pardon? Ah, il avait une tête dure, hein? Il avait une tête dure, hein? Il est resté aussi longtemps parce qu'il voulait pas capituler. C'est moi qui ai raison. Non, je veux rester comme ça. Jusqu'à ce qu'ils disent, eh ben oui, Seigneur. Ok. C'est toi qui as raison et je vais faire ce que tu demandes. Je vais te suivre. Et c'est seulement à ce moment-là, quelque part sur le rivage, que Jonas va être recraché par le poisson et qui va se mettre en marche. Seulement après 3 jours, il va partir. Il va faire quelques jours, une semaine de marche, pour aller jusqu'à Ninive. Nous allons voir dans un premier temps, un peu plus en profondeur, les réactions de Jonas. Et puis après, dans un deuxième temps, on verra ce qu'on apprend sur Dieu. Et donc, chapitre 3, verset 1, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une deuxième fois. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je t'ordonne. Jonas se leva et alla à Ninive. conformément à la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une immense ville. Il fallait 3 jours de marche pour en faire le tour. Jonas fit d'abord, dans la ville, une journée de marche. Il proclamait, dans 40 jours, Ninive sera détruite. Et il sort. Il fait le service minimum. On pense que Jonas a compris. Il se lève, il va à Ninive pour annoncer la condamnation de Dieu. Mais il n'a toujours pas changé d'idée. Il annonce juste ce qu'il faut. Et le texte nous dit, on va pas tout lire l'histoire de Jonas, mais rappelez-vous, le texte nous dit qu'est-ce qu'il fait. Après une journée, il sort et il attend de voir la destruction de Ninive. Il espère que Ninive sera détruite. Est-ce qu'il nous arrive, nous aussi, à obéir à contre-cœur? On y va à reculons. On sait que c'est ça, mais on n'est pas très convaincu. Parce que des fois, on croit que nous, on sait mieux. Et qu'on a envie de faire comme nous, on a envie. J'ai eu l'occasion de former des jeunes à l'animation. Et on faisait des équipes et ils devaient préparer des activités, des jeux ou autres, avec tout un contexte, un imaginaire, des ustensiles, tout ça. Et on faisait les bilans après. Et là, on voyait assez régulièrement ceux qui n'étaient pas tout forcément en accord avec les autres. Et je vous l'avais bien dit qu'il fallait pas faire ça. Et on voit qu'ils se désolidarisent. Faire les choses à contre-cœur. On y va, mais on n'est pas très, très, comment dire, emballé par la chose. On voit parfois aussi nos enfants qu'on oblige à faire quelque chose et qu'ils n'ont pas envie, ranger leur chambre, venir à table, ou alors lorsqu'ils sont devant la télé, hein, on les appelle pour le repas et oui, j'arrive, 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 mais j'arrive pas. Et puis finalement, on récolte ça. Un air très furax. Ils sont pas contents. Et cela va être l'attitude de Jonas. D'autant plus que, malgré qu'il a fait son service minimum, contre toute attente, le roi même va entendre parler de ça. Et il va s'humilier. Et Dieu va décider de ne pas détruire Ninive. Et Jonas, chapitre 4, verset 1, nous dit que Jonas le prit très mal et fut irrité. Il pria l'Éternel en disant, Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je t'avais dit quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis. En effet, je savais que tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et qui regrette le mal que tu envoies. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie. Car mourir vaut mieux pour moi que vivre. Et l'Éternel répondit, Fais-tu bien de t'irriter? Jonas est en pétard. Il est irrité. Il est même irrité contre Dieu. Est-ce qu'il vous arrive de vous irriter contre Dieu? D'être en colère? Seigneur, mais pourquoi? Non, bien sûr, il n'y a que les Marseillais qui font ça. Mais il est tellement irrité, mais qu'il voudrait même en mourir. Seigneur, reprends ma vie. Mais ce n'est pas possible, un tel plan. Mais Seigneur, j'ai même pas envie de voir ça. Il refuse tellement le plan de Dieu que il préfère mourir que de voir Dieu pardonner ce peuple de mécréants. Ce peuple qui sera utilisé après pour punir Israël. Est-ce qu'il y a des personnes que vous avez du mal à supporter? Vous n'avez pas trop envie de pardonner. Ou alors, dans notre sens, est-ce qu'il y a des personnes que vous dites, ils sont tellement mauvais que jamais ils changeront? C'est pas possible que leur cœur soit transformé. Ce n'est même pas la peine d'essayer. J'ai appris une chose dans ma vie, c'est que, en fait, c'est pas l'autre qui doit changer, c'est moi. Et quand Dieu me fait la grâce de changer mon regard sur l'autre, que là, il y a des choses qui peuvent se passer. Et du coup, je vous dis, est-ce que vous avez déjà vécu ça? Quand au lieu d'accuser l'autre, vous êtes vous d'abord remis en question. Dire, Seigneur, aide-moi, pardonne-moi. Et du coup, là, les choses basculent, changent. Je l'ai vécu dans des périodes très importantes de ma vie, et du coup, j'arrive à le vivre aussi maintenant dans des choses toutes simples. Quand il y a quelqu'un qui vient, et là, dans le projet, dans les travaux, il y a toujours des choses comme ça, on pourrait de mal le prendre des fois. Ah non, mais attendez, vous êtes engagé à faire ça, maintenant il faut y aller. Plutôt, essayez de voir la personne. Ah, vous avez eu des difficultés. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et la personne, elle est toute différente du coup. Elle se sent pas agressée. Et là, elle est prête à agir différemment. Par moi-même, je n'y arrive pas, je dois l'avouer. J'ai beaucoup besoin de l'aide du Seigneur. Il doit me transformer moi. Et c'est là les choses vont pouvoir être transformées. Jonas, un serviteur qui connaît son Dieu, je savais que. Jonas, un serviteur aimé. Verset 6, l'Éternel Dieu fit pousser une plante, chapitre 5, qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et le délivrer de son mal. Jonas éprouva une grande joie à cause de cette plante. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui la rongea et la plante sécha. Dieu dit à Jonas, alors Jonas, il s'énerve à nouveau, bien sûr. Dieu dit à Jonas, verset 9, fais-tu bien de t'irriter à cause de la plante? Il répondit, j'y fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. L'Éternel dit, tu as pitié de la plante qui ne t'a coûté aucune peine, et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains, incapables de distinguer leur droite de leur gauche, et un grand nombre d'animaux. Ce passage serait presque burlesque si l'enjeu n'était pas si grand, la vie de centaines de milliers de personnes. Il suffit d'une plante pour que Jonas retrouve la joie, même une très grande joie, puis de la reperdre, pour à nouveau s'irriter, vouloir jusqu'à mourir. Il serait intéressant d'avoir le profil psychologique de Jonas. Mais bon. J'ai un peu de mal à me comparer. Alors, je suis quelqu'un, effectivement, de très spontané. Et voilà, il m'est arrivé aussi souvent de me mettre en colère. Pour autant, j'ai un peu de mal à me comparer à Jonas. Je me suis jamais mis en colère pour une plante, quand même. Et je me dis, mais quelle leçon Dieu veut nous donner au travers de cette histoire? Alors, il y a déjà le côté tête dure de Jonas. Et là, je pense que je peux me comparer à lui. Je ne sais pas vous. Je ne sais pas si les Biennois sont tête dure, mais les Bernois, oui. Ah non, pardon. Les Biennois sont Bernois. Ah oui, rappelle-toi, Jean-Jacques. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a quelque chose là à retirer. Mais je me suis demandé aussi sur le côté héros sacrificiel, serviteur sacrificiel. Est-ce que ça vous est aussi arrivé de vous engager à fond pour le Seigneur, vraiment à vous donner à fond pour quelque chose, une œuvre, une action, un programme, qu'importe, vous donner à fond pour le Seigneur et que vous n'avez pas le retour attendu, qu'il y a des critiques, qu'il y a des gens qui mettent les pieds au mur, que vous organisez quelque chose et puis qu'il n'y a personne qui vient? Ben, si c'est comme ça, débrouillez-vous. Non? Bon, vous n'êtes pas comme moi, c'est bien. Ben oui. Si ça va pas comme je veux, ben j'aurais tendance aussi à dire, ben tant pis pour vous, alors, débrouillez-vous. Jonas, ce héros qui est prêt à se sacrifier pour son peuple, qui se sacrifie pour des marins qu'il ne connaît pas, qui ne sont peut-être même pas juifs, il leur dit, jetez-moi à la mer. Avec une mauvaise blague, je dirais, c'est le premier suicide assisté de l'histoire. il est prêt à se sacrifier pour ça, qui se soucie d'une plante, bon, ça c'est peut-être le soleil qui avait trop tapé sur sa tête, mais qui n'accepte pas le plan d'amour de Dieu. Que les choses n'aillent pas comme lui, il a décidé. Pour autant, Dieu l'aime. Il ne le laisse pas tomber. Jonas est aimé de son Dieu. Et c'est pourquoi Dieu va travailler avec son serviteur encore et encore pour lui montrer toute la pertinence de ses actions. Dieu nous travaille et travaille avec nous parce que nous sommes aimés de lui. Quand des fois ça va pas comme on veut, quand c'est dur et que Dieu doit taper fort sur notre tête, c'est pas pour nous punir, mais c'est parce qu'il nous aime et qu'il veut nous utiliser. Alors la deuxième partie de notre message, un peu plus courte, n'ayez pas peur, c'est que nous allons voir l'action de Dieu pour Jonas, le Dieu maître de l'histoire. Notre Dieu est maître de l'histoire. Il ordonne et les choses se font. Il annonce par son prophète Joël que le royaume du Nord sera déporté. Et quelle que soit la machination de Jonas, à un moment donné, le royaume du Nord sera déporté, malheureusement. Il envoie une tempête et il la calme tout aussitôt. Il envoie un gros poisson. Vous voyez la taille d'une baleine à bosse avec un homme. Et le poisson arrive au bon moment pour avaler le bonhomme. Il envoie un tout petit ver. Il fait pousser une plante. La plante, elle pousse. Il envoie un tout petit ver et le ver fait son œuvre. Dieu est maître de l'histoire, de la nature, de toute la création. Ce qu'il ordonne se fait. Et la seule chose qui peut le faire changer d'avis, c'est le repentir de l'homme. Parce que par-dessus tout, Dieu aime l'homme. Dieu aime les humains plus que tout. Si l'homme revient, se repent, s'humilie, Dieu est toujours prêt à pardonner, car il est le Dieu du pardon. Il est le Dieu, le maître de l'histoire, et il est le Dieu du pardon. En effet, je savais que tu es un Dieu de grâce, de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et qui regrette le mal que tu envoies. C'est un texte que Jonas cite du Pentateuque de Moïse, de Exode 34, verset 6. Dieu est un Dieu de pardon et d'amour. Souvent, certaines personnes voient l'Ancien Testament comme quelque chose de très sanguinaire. Et c'est vrai, il y a des conquêtes, des batailles, il y a beaucoup de jugements et de punitions. Mais quand on regarde bien, Dieu annonce toujours le jugement en avance pour que les gens aient le temps de se repentir. Même avec Sodome et Gomorre, Dieu va accepter qu'Abraham négocie avec lui jusqu'à temps. Et certains disent, mais Abraham, il aurait dû aller encore plus loin. Bon, après, quand on négocie avec Dieu, à un moment donné, il faut savoir s'arrêter, certainement. Dieu donne un délai. Il accorde ce délai pour que les hommes aient le temps de revenir à lui. Parce que ce que Dieu veut, même quand il annonce le jugement, c'est la repentance de l'homme. Jonas cite l'Exode. Il sait que qui était son Dieu. Il connaît son Dieu. Il connaît la compassion, la bienveillance, la patience, la retenue dans le jugement, la loyauté de son Dieu, qui font partie de sa nature, car Dieu est un Dieu compatissant, lent à la colère. C'est le Dieu de patience. Et c'est le troisième point que je voudrais voir encore sur Dieu, qu'on connaît, mais qu'il est bon de se rappeler. L'Éternel fit pousser une plante qui se leva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et le délivrer de son mal. Dieu se soucie de Jonas, même dans les moindres, dans les plus petites choses, il va jusqu'à donner une plante pour lui faire de l'ombre, pour le délivrer de son mal. On voit la patience de Dieu envers son prophète pour lui enseigner ce qu'il a à lui enseigner, que son amour est pour tous les humains, même les plus mauvais, comme les Ninivites. Et plus loin encore, pour nous. Parce que Christ prend l'exemple de Jonas. Mais Christ, lui, va rester dans le tombeau pour offrir le salut à toute l'humanité. Dieu veut montrer à Jonas que sa patience va jusqu'à pardonner même les personnes les plus mauvaises si elles se repentent. Et je pense que toute cette histoire de Jonas a pour fin cela. La patience et l'amour de Dieu qui veut pardonner. Surtout que ce texte s'arrête sur une non-fin. Il dit à Jonas, et ça s'arrête là, est-ce que moi j'aurais pas pitié de ces gens-là? On ne sait pas l'attitude de Jonas, on ne sait pas comment il va réagir. Mais Dieu, il va amener son serviteur jusque-là, et il veut nous amener, nous aussi, jusque-là, jusqu'à sa patience, qui veut utiliser son serviteur malgré toutes ses fausses compassions. Toi, suis-moi. Alors j'ai souri, hein, quand vous parliez de tout ça ce matin, avec les prières, les chants et tout. Suivre Christ, quelles que soient les circonstances, et ce n'est pas toujours facile. Alors parfois, je suis aussi têtu que Jonas. Et des fois, je suis certain que ce que je décidais de faire, c'est ce qu'il fallait faire. Pourtant, Dieu utilise d'amour et prend soin de moi. Il prend soin de nous, il nous conduit et se révèle à nous. Parfois, il doit taper un peu fort, comme je l'ai dit, sur nos têtes pour qu'on comprenne. C'est le Dieu d'amour. C'est le Dieu de l'histoire qui a tout entre ses mains et tout lui obéit. Apprendre à lui faire confiance. Même quand on ne comprend pas ou qu'on a l'impression que cela ne va pas le faire. Et avec tous ces travaux dont je dois m'occuper, c'est vraiment une leçon que j'apprends, que je réapprends et que je ré-réapprends parce que finalement j'ai l'impression que on n'arrive pas à l'apprendre une fois pour toutes. Faire confiance à Dieu. Des fois on a l'impression, ouais, c'est bon, ça y est, j'ai compris, Seigneur, je te fais confiance. Et juste après, il y a encore un truc qui arrive. Ah, Seigneur, pourquoi, machin. Apprendre et apprendre. Dieu a toutes choses entre ses mains. Et il n'est pas débordé par ce qui se passe. Il n'est pas débordé. Il contrôle tout, même si des fois, nous, on ne comprend pas. Il est aussi ce père aimant qui attend patiemment sur le seuil de la porte son fils qui va revenir. Dieu est un Dieu patient qui chemine avec nous, qui nous montre son plan d'amour. Il est patient avec nous. Il nous aime et c'est pour ça qu'il veut travailler avec nous. Donc, alors on n'est plus au début de l'année, mais on est encore en janvier. Tous mes vœux pour cette année. On a dit jusqu'à fin janvier, on peut le dire, il paraît. Mais bref, eh bien, tous mes vœux pour cette année et que pour cette nouvelle année, nous puissions nous laisser transformer par ce Dieu afin de pouvoir le suivre là où il nous conduit. Amen. Je vais vous inviter à prier. Seigneur, merci pour cette histoire de Jonas, qui nous montre quel Dieu d'amour tu es. Tu es ce Dieu d'amour envers tous les êtres humains, envers les Ninivites, mais aussi envers ton serviteur et envers chacun de nous. Tu nous montres ta patience, ta bonté, ta bienveillance envers nous. Parfois, on ne comprend pas. Mais tu nous demandes de te faire confiance parce que tu es ce Dieu de l'histoire qui tient toutes choses entre tes mains. Et tu nous dis, toi, suis-moi. Oui, Seigneur, tu nous appelles à te suivre avec ce qu'on est, nos têtes dures, nos travers, ou que sais-je, Seigneur, parce que toi, tu vas faire quelque chose avec ça. Tu nous appelles à te suivre parce que toi, tu sais où tu veux nous amener, tu sais où tu veux nous conduire. Tu nous appelles à te suivre et à nous attendre à toi, Seigneur, parce que tu es un Dieu tellement plein d'amour pour nous et tu veux pas notre malheur, mais tu veux notre bien. Seigneur, que nous puissions apprendre, réapprendre et encore apprendre à te suivre, Seigneur, et à te faire confiance. Amen.